l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics.
Article 1. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme.
Bienvenue dans Idées reçues, la chronique qui vous propose de réfléchir aux préjugés qui persistent dans la sphère des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler des migrations. Des idées reçues concernant les personnes en situation de migration, il y en a des tas. Pour cette chronique, j'ai décidé d'en sélectionner une en particulier, à savoir
« Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde ».
Et cette phrase célèbre que l'on doit à Michel Rocard est malheureusement toujours d'actualité, voire très à la mode.
Parce qu'on ne peut pas prendre toute la misère du monde.
On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde.
Surtout, on se dit, on ne peut pas, pour reprendre l'adage bien connu, accueillir toute la misère du monde.
Ainsi, cette doctrine bien connue permet de justifier des politiques sécuritaires mises en place par les gouvernements successifs. Par exemple, au moment où en 2014 l'Union européenne demandait à la France d'accueillir 24 000 personnes en exil, des paroles s'élevaient contre cet accueil au motif que « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». Alors même que 24 000 personnes représentent seulement 0,04% de la population nationale française, voici comment Christiane Taubira a réagi.
24 000 personnes en détresse, femmes, enfants et hommes, ça n'est pas toute la misère du monde. Nous sommes 67 millions et nous sommes terriblement effrayés à l'idée d'accueillir 24 000 personnes. Mais cela dit des choses terribles sur nous. C'est sur nous que ça dit des choses terribles. Une peur, panique, complètement irraisonnée, un sens des réalités très diluées, très altérées, un égoïsme qui n'est même pas tangible parce qu'il n'a même pas d'effet, cet égoïsme-là. Ça dit des choses terribles sur nous.
En effet, comme il l'a été dit dans un article de Mediapart publié en 2016, la misère du monde n'est pas un problème, c'est le symptôme d'un monde qui tourne à l'envers. Mais au fond, que cache réellement cette pensée? La peur d'un envahissement.
Donc, lorsque la parole politique explique qu'on a un afflux de gens, on est submergé, ça ressemble d'ailleurs à l'antichambre du grand remplacement. Hein. Donc vous avez des paroles politiques qui s'élèvent, qui trouvent des espaces pour s'exprimer et pour dire que nous sommes envahis.
En effet, dans les médias ou dans des discours de dirigeants, on entend souvent parler d'afflux massif de migrants arrivant à la porte de la France. Pourquoi cette affirmation est à prendre avec des pincettes? Tout d'abord, c'est au sens figuré que l'on doit entendre cette formule signifiant alors une arrivée soudaine et en grand nombre de personnes en situation de migration. À noter également que l'utilisation de ce terme est souvent péjorative puisqu'elle implique que la quantité ne va pas dans le sens de la qualité. Lorsque l'on parle d'afflux dans le domaine des migrations, cela implique nécessairement une réaction sécuritaire de la part des gouvernants. C'est ainsi qu'en France, le rétablissement des contrôles aux frontières en 2015, et toujours en vigueur depuis, a notamment été mis en œuvre afin de lutter contre un soi-disant « risque migratoire » et un afflux massif de personnes en situation irrégulière, sous couvert également de lutte contre le terrorisme. Il s'agit donc d'un terme éminemment politique et irrationnel, utilisé pour instaurer la peur d'une gigantesque vague de personnes débarquant sur le sol français. L'utilisation de cette affirmation n'est en effet pas anodine, mais en plus de cela, véhicule une fausse idée d'arrivée massive de personnes en situation de migration aux portes de la France. Pour comprendre le mécanisme de cette idée reçue, prenons un peu de recul.
En 2015, 240 millions de personnes ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie. Impressionnant, Ce n'est que 3% de la population mondiale, et cela n'a rien de nouveau. À la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913, les migrants représentaient 5% de la population du globe. Tout au long du 19e siècle, 50 millions d'Européens ont fui la famine et la pauvreté pour tenter leur chance aux Amériques. États-Unis, Canada, Argentine ou encore Brésil, à l'époque, près de 12% de la population européenne a émigré.
Pour compléter avec des chiffres un peu plus récents, il est possible de lire sur le site des Nations Unies qu'en 2019, le nombre de migrants internationaux, c'est-à-dire de personnes qui résident dans un pays autre que celui dans lequel elles sont nées, était d'environ 272 millions de personnes. Nous sommes donc loin des 12% mentionnés dans l'extrait précédent concernant l'immigration des Européens au XIXe siècle. Mais attention, l'idée n'est pas ici de sous-estimer l'existence de conflits, de persécutions ou encore de problèmes économiques majeurs, mais bien de relativiser une peur de l'envahissement en se basant sur ce que l'Europe et la France ont déjà vécu auparavant. De plus, il s'agit évidemment de ne pas oublier toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de quitter leur pays. Ainsi, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estimait qu'en 2020, plus de 80 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde, c'est-à-dire forcées de fuir leur foyer du fait de la persécution, de conflits, de violences et de violations des droits humains. Sur l'ensemble de ces personnes, plus de la moitié sont des déplacés internes, contraintes de vivre dans le pays dans lequel elles se trouvent en danger, en dehors de leur foyer, la plupart du temps, dans des campements aux conditions déplorables. Enfin, sur l'ensemble de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants forcés de quitter leur pays d'origine et en mesure de le faire, 73% vivent dans des pays voisins, n'ayant pas forcément les moyens de rejoindre l'Europe. Alors non, la France ne peut pas prétendre qu'elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, tout simplement parce que cette misère, comme certains l'appellent, ne se trouve pas à nos portes, mais dans des états extrêmement pauvres et frontaliers des pays d'exil. Cette peur panique d'un afflux massif de personnes en migration débarquant aux portes de l'Europe ou de la France est très étroitement liée à la notion d'appel d'air. En effet, plus les associations viendraient au secours des personnes en situation de détresse en Méditerranée, plus les gens choisiraient de migrer. À la fin de l'année 2019, deux chercheurs déconstruisaient ce mythe à travers les résultats d'une étude réalisée pour l'Institut universitaire européen de Florence, démontrant alors que les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée n'avaient pas de corrélation avec le nombre de migrants quittant la Libye par la mer. Mais cette théorie de l'appel d'air cache une deuxième dimension, cette fois-ci plus locale. En effet, certaines personnalités politiques véhiculent l'idée selon laquelle les personnes en migration feraient alors une étude de marché afin de savoir où il serait plus facile d'obtenir des papiers. C'est ce que l'on appelle du benchmarking.
Et ce débat qui, depuis hier, se déroule en disant « Mon Dieu, c'est une insulte que d'utiliser ce mot benchmark », c'est-à-dire comparer la possibilité où vous avez le plus de chances d'avoir des papiers, c'est une évidence. C'est une évidence que les passeurs, que les migrants se parlent entre eux. Et qu'effectivement, on sait bien qu'il ne faut pas faire un appel d'air, parce que sinon, si on dit « En France, il n'y a pas de souci pour avoir ses papiers », vous verrez que le migrant viendra plutôt en France. Pourquoi aujourd'hui, ils veulent tous aller en Angleterre ?
Ainsi, l'image de un accueil réalisé dans des conditions décentes ferait venir davantage de personnes. François Jemaine, chercheur spécialiste du climat et des migrations, nous explique pourquoi cette affirmation est totalement fausse dans l'émission « À l'air libre » de Mediapart.
Pourquoi est-ce que les gens migrent au départ ? Pourquoi est-ce qu'ils vont choisir d'abandonner leur famille, leur village, de prendre tous les risques, de dépenser des milliers d'euros aux passeurs ? Parce qu'ils en ont absolument besoin pour sauver leur vie, pour nourrir leur famille ou simplement pour accomplir le projet d'une vie meilleure. Ils ne vont pas venir pour une douche à Calais ou pour quelques centaines d'euros d'allocation familiale. Ça n'a aucun sens. Et très souvent, ils ne savent pas avant de venir quelles sont les aides auxquelles...
C'est dans un rapport coécrit en 2019 par des chercheurs de l'Université de Liège, en partenariat avec Caritas International, que l'on peut lire. Des études sur l'hypothèse de l'appel d'air démontrent qu'il y a peu de liens entre l'ampleur des flux migratoires vers un pays et la générosité de son système de protection sociale et de sa politique d'accueil. Alors non, ce n'est pas demain que la France devra accueillir toute la misère du monde, et il est temps que le gouvernement adopte un accueil décent aux personnes en situation de migration. Car, comme de nombreuses recherches le prouvent, et notamment celle précitée et menée en partenariat avec Caritas, lorsque l'accueil des migrants et réfugiés est optimalisé et les entraves limitées, tous les acteurs en sortent gagnants. La personne migrante, la société d'accueil et même le pays d'origine. Idées reçues, la chronique qui vous propose de réfléchir aux préjugés qui persistent dans la sphère des droits de l'homme.